technique avant de commencer. En 2010, je me suis acheté une Bible avec les commentaires de John MacArthur, qui est remplie d'informations, qui m'instruit, et c'est la synthèse du travail de toute sa vie. Donc, ça, je vous le recommande. C'est l'ancienne traduction à laquelle on est habitué, Louis II, 78, mais avec une richesse de commentaires et de réponses à des questions, c'est vraiment intéressant. Cette année, je me suis procuré deux autres Bibles. Ça, c'est la seconde 21. Nelly vous extrait la plupart de ces textes de cette traduction-là. C'est ce que je vais utiliser principalement pour prêcher ce matin. Je vous conseille d'aller voir dans les maisons d'édition biblique. Il y a un travail phénoménal qui a été fait depuis les années 80 et dont on peut profiter, second 21. Mais j'ai aussi acheté dernièrement la Bible du Semeur, parce que ça me réveille. Il y a des passages que je ne comprends plus tellement que je les connais par cœur. Quand je les lis dans cette traduction-là, ça me les applique autrement. Et la différence entre les deux, on peut dire, vous allez dire, mais c'est mêlant. Non, ce n'est pas du tout. C'est qu'ici, l'idée, c'est de traduire pour être compris sans nécessairement garder le formalisme du texte original. Alors, ce n'est pas facile de prêcher avec ça parce que tu ne suis pas l'original, mais c'est appliqué tout le temps. Alors qu'ici, on est un petit peu plus près, on est un petit peu plus collé sur les textes originaux. Je vous dis ça parce que je vais me promener entre ces deux traductions-là ce matin pour faire mon exposé. Qui, lui, j'ai dit, les temps changent. Et aussi, j'avais préparé un premier message qui avait pour objectif de nous démontrer que la Bible a une valeur extrinsèque au plan historique, c'est valable, et une valeur intrinsèque quand on regarde les textes, que c'est pertinent et que c'est une source de désir. Alors, c'était un message, il était prêt. Mais quand j'ai vu la déroute sociale dans laquelle on est plongé, tout le monde, aujourd'hui, je me suis dit, ce serait comme aller parler du jardinage pendant qu'on a un tremblement de terre alentour de nous. Plus personne ne s'intéresse à jardiner, là. La terre tremble. On veut savoir, on fait quoi, là, dans un tremblement de terre? Donc, j'ai fait un nouveau message, complètement. Et ce nouveau message-là s'intitule « Non plus ma Bible et moi », c'était le titre du premier message, mais celui-ci s'appelle « Vivre dans le monde en citoyen capable ». Le thème demeure les Écritures, mais c'est les Écritures dans un contexte de trouble social. Et je me suis rendu compte, après avoir terminé cet exercice-là, que dans le fond, c'est ma réponse à moi à comment vivre dans le monde sans être du monde. Je n'ai pas essayé de faire ça, mais ça donne ça comme résultat. C'est ma réponse à moi. Donc, là, à quelle heure est-ce qu'il faut terminer pour que les locaux soient libérés et tout, là? Attends. À 10h25? Je ne vois pas cette horloge-là. Moi, j'ai moins 5 ici. Il faut que je termine à quelle heure? Et 25. Merci. Parfait. OK. Il n'y aura pas de problème. La Bible a-t-elle... Je vais débuter avec une question. La Bible a-t-elle quelque chose de concret à nous dire quand tout va vraiment très mal? Dans les Proverbes 29 au verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation, plus proche du sens littéral, on a des traductions qui vont dire « quand il n'y a pas de vision ». Mais ça, c'est par allusion aux prophètes. C'était les prophètes qui avaient des visions, puis leurs visions constituaient des révélations. Alors, quand le Proverbe 29, 18 nous dit « quand il n'y a pas de vision », plusieurs autres traducteurs disent « quand il n'y a pas de révélation » ou « quand il n'y a pas de révélation divine ». Et dans les commentaires de John MacArthur, il dit « ce n'est pas seulement quand il n'y a pas de prophète ou quand il n'y a pas de révélation, mais c'est aussi quand le peuple quand les gens ne viennent pas aux Écritures, quand les gens n'écoutent pas la révélation. Alors, quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Proverbe 29, 18, dans la seconde 21. Par le peuple, il faut entendre ici toutes les couches de la société et toutes les classes de participants. Le politicien a plus de retenue lorsqu'il connaît et obéit à la révélation divine. Le policier, j'ai été policier, j'ai dirigé des policiers et j'ai donné des ordres avant d'être chrétien et j'ai donné d'autres ordres après avoir été chrétien. Et lorsque je connaissais la révélation, j'exigeais que l'on s'en tienne aux règles d'éthique qui sont d'utiliser la force minimale. Leader de tout ordre, j'ai été leader. Le leader, lorsqu'il connaît la révélation, il a plus de retenue que lorsqu'il ne la connaît pas. Le citoyen, le chrétien dans une église, le membre d'un conseil d'une église, ça s'applique à tout. Mais là, je l'ai développé en fonction de la crise sociale, mais finalement, ça s'applique à tout. Et je ne vais pas parler de la crise sociale et je ne prends pas position dans aucune direction dans cette crise sociale-là. Alors, si on est dans la rue comme chrétien, on a de la retenue par contre. Ça, c'est un point que je dégage des Écritures. Mais je ne dégage pas qu'on ne devrait pas être dans la rue. Je ne me prononce pas là-dessus. Alors, sans révélation de Dieu, de la part des prophètes, je ne saurais rien à propos de qui est Dieu. Ça, c'est moi comment je comprends les choses. Sans la révélation de Dieu de la part des prophètes, je ne saurais rien du salut qu'il m'offre, du type de vie qu'il souhaite que je vive, des ressources qu'il met à ma disposition. Je ne saurais rien de tout ça. Ce sont les textes de la Bible qui m'apprennent à adopter des attitudes plutôt que d'autres. Ce sont les textes de la Bible qui m'apprennent à régler mes comportements d'une certaine manière et non d'une autre. Alors, ce que j'aimerais vous suggérer ce matin, ce sont quatre points de référence ou quatre points d'ancrage pour apprendre à développer des attitudes habilitantes. Ce que j'entends par une attitude habilitante, ceux qui ont travaillé avec le matériel de Stephen Glenn, Developing Capable People, développer des jeunes solides, au cœur de ça, il y a un mot anglais qui se traduit mal en français, c'est empowerment. L'empowerment consiste à assumer tout ce que l'on fait comme étant pas de la faute à l'autre. Si je donne un coup de matraque sur quelqu'un, c'est moi qui la donne, le coup de matraque. Si je lance quelque chose à un policier, c'est moi qui lance l'objet au policier. C'est pas Charest qui est responsable de moi qui lance mon objet. Puis, si je suis politicien, c'est pas parce qu'on a été arrogant envers moi que je suis déresponsabilisé des actions que je pose ou des paroles que je prononce. Et ça s'applique partout dans nos vies, dans nos travails, dans nos milieux que l'on fréquente, dans nos familles et tout ça. Donc, une attitude habilitante, c'est une attitude qui consiste à savoir qu'en toute chose, le choix nous revient d'agir bien ou d'agir mal. Donc, les quatre points d'ancrage portent sur le développement des attitudes habilitantes pour vivre dans le monde en citoyen capable, pour vivre dans l'Église en chrétien capable. Alors, c'est pas les autres qui sont responsables de ce que je fais ou c'est pas les autres qui m'empêchent d'agir. Puis je dirais que, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que, pour ma part, ce qui a fait de moi un citoyen non capable, un chrétien non capable pendant longtemps, c'était la culpabilité. Le diable me tenait par la culpabilité sur des choses dont j'étais coupable. Et quand j'ai compris cette emprise-là, j'ai dit, « Seigneur, tu es mort pour moi. » Et ça, ça rend capable de fonctionner dans le cadre des ressources que Dieu met à notre disposition et dont on peut apprendre dans les Écritures. Donc, les quatre points d'ancrage sont très simples. Ce sont le bien. Le bien que je dégage des proverbes. Le proverbe 1, en particulier, dont je vais lire un extrait tout à l'heure, nous parle de la sagesse, mais c'est une sagesse pour faire le bien plutôt que pour faire le mal. Donc, c'est le premier point d'ancrage. Le deuxième point d'ancrage, c'est le Seigneur, Dieu, notre Père. Proverbe 1, 7 nous dit de révérer Dieu et que la révérence de Dieu ou la crainte de Dieu dans les plus anciennes traductions, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, je l'attache au bien. Le troisième point d'ancrage, c'est de s'attacher à la parole, de s'approprier la parole. Et je vais aller dans Colossiens 3,16 qui nous dit que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Et on a ça dans le psaume 119, Pierre qui nous dit « désirez la parole ardemment ». Et je vois ça comme un troisième point d'ancrage, d'être habité par la parole de Dieu. Et le dernier point d'ancrage, c'est d'apprendre à connaître Christ. Et j'ai été étonné, dernièrement, justement, j'étais en train de mémoriser un passage de la Bible dans 2 Pierre, dans 1 Pierre 1, et le passage qui se termine par « désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur ». Et en mémorisant ce passage-là, je me suis rendu compte que je pouvais aussi en faire un objet de prière. Et que de cette manière-là, je pouvais mieux me l'approprier. Bon, enfin, je vais... Donc, ça, ce sont les quatre points d'ancrage. Le bien, Dieu, la parole et connaître Christ, qui est quelque chose qui résulte d'une démarche de toute une vie. Le concept de la sagesse... Proverbe 1, j'aimerais qu'on lise dans Proverbe 1. Je vais vous lire ça ici dans la Bible du Sommeur. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Les proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former. Dans les traductions plus littérales, collées sur le grec, on parle d'instruction. Ici, on parle de former. Et quand on va voir les commentateurs, ils disent que dans le mot « instruction », il y a la notion de discipline, il y a la notion de s'appliquer systématiquement à apprendre quelque chose. Donc, c'est un effort soutenu comme dans le cadre d'un projet de formation pour apprendre quelque chose de précis. Alors, les proverbes de Salomon ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Apparemment que le livre des proverbes est utilisé pour la formation des conseillers au roi d'Israël et pour la formation des dirigeants. Ce sont des maximes avec plein de contradictions, entre autres. Parle à l'insensé. Ne parle pas à l'insensé parce qu'il ne t'écoutera pas de toute façon. Mais parle-y, parce que si tu parles à l'insensé, il ne t'écoutera pas, mais si tu ne lui parles pas, il va se penser plus intelligent que toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça ne le dit pas. Ça présente un problème. Ça ne donne pas de solution au problème. Tout dépend. Et c'est rempli de maximes comme ça. Puis quand on vit une crise comme celle dans laquelle on est présentement, on se demande bien qu'est-ce qu'on devrait faire. On ne sait pas ce qu'on devrait faire. En tout cas, moi, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Puis dans la vie, c'est souvent comme ça. Donc, les proverbes, quand on y vient, ils nous donnent des instructions pour nous aider à orienter nos vies. Bon, le terme « instruction », je vous en ai parlé, il est traduit parfois par « entraînement ». Il semble indiquer que pour acquérir la sagesse, il faut y œuvrer systématiquement, comme nous faisons lorsque nous donnons une formation dans un domaine précis. Le terme « intelligence » qui est utilisé dans les Bibles plus littérales, plus collées sur le texte hébreu, ce que Salomon demande à Dieu dans sa prière, c'est l'intelligence, c'est le même mot qui est utilisé dans les Rois, lorsque Salomon demande à Dieu la sagesse, et il dit dans les termes suivants, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Donc, c'est de là que je tire la notion, en partie, que la sagesse est associée à comprendre ce qui est bien par opposition à ce qui est mal. Dans la seconde 21, là, je vous lisais dans la seconde standard de 1978 à laquelle la plupart d'entre nous sont habitués, mais dans la seconde 21, qui date de 2007, 21 pour 21e siècle, il est écrit « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter. » C'est intelligent, écouter, c'est quand même intéressant, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Bon, là, je vais vous lire mon texte qui est mieux structuré que l'improvisation. Pour discerner avec bon sens et selon la connaissance ou le savoir, nous avons tous besoin d'appui. Ces appuis, ce sont les fondements de nos convictions. Si on est chrétien, si on a la Bible comme référence, c'est un appui. Si on ne l'est pas, on a d'autres appuis. Il y a d'autres appuis qui permettent d'avoir une vie qui marche bien, en général. Oui, il y en a d'autres. Il y a des philosophies qui entrent en compétition avec le christianisme. Mais ici, dans les Écritures, on a aussi quelque chose qui est un appui que l'on peut choisir comme fondement de notre vie. Le livre des Proverbes se présente lui-même comme base pratique pour distinguer ce qu'il convient de faire ou de dire quand tout n'est pas simple. Les Proverbes sont ponctués d'invitations aussi à choisir la sagesse, contrastées aux invitations de choisir la folie. Ça le dit, la sagesse crie au coin des rues et elle invite l'insensé, « Entre ici, tu n'as pas besoin d'être intelligent pour apprendre la sagesse. C'est accessible aux stupides et aux fous qui peuvent entrer. Mais il y a aussi la folie qui fait la même invitation et qui dit « Viens chez moi ». Donc, c'est un choix que l'on doit faire entre la sagesse et la folie, selon les proverbes. C'était mon premier point de référence que, initialement, je voyais là, je disais il faut comprendre, vouloir, distinguer et choisir le bien. Donc, je regroupe tout ça ensemble. Ce sont comme quatre aspects qui définissent ce qu'est la sagesse selon Dieu, qui la définissent en partie. Et la sagesse, ce n'est pas « fais pas de vagues ». Quand on lit les proverbes, on ne voit pas là que la sagesse veut dire, comme souvent j'ai entendu, « fais pas de vagues ». Être sage, c'est pas faire de vagues. Non, c'est pas faire de vagues, être sage. Parfois, être sage, c'est pas faire de vagues, mais ce n'est pas que ça. Le deuxième point d'ancrage, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1, 7. Le commencement de la sagesse. En fait, on a ça à plusieurs endroits. Je lis ici dans le Proverbe 9, 10 et dans le Proverbe 1, 7. « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » La connaissance, et Proverbe 1, 7, dans second 21, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Et dans la traduction anglaise « Good News Bible », j'ai trouvé tellement parlant Il dit, refuser d'apprendre est une marque contraire de la sagesse. L'insensé refuse d'apprendre. Si tu méprises l'instruction appliquée, en langage appliqué, tu refuses d'apprendre. Donc, lorsque l'on se... Et le point que je voulais amener de ça, c'est qu'il est tout à fait possible de refuser d'apprendre ce que Dieu veut que l'on sache. Et disons que ça, c'est un des points d'ancrage d'une attitude habilitante pour vivre... comme un citoyen capable en toutes circonstances, même quand ça va très mal. J'aimerais observer aussi que le mot « commencement », le terme « commencement » implique un début, mais implique comme la clé. Dans certaines traductions, on va dire, comme dans la Bible du Sommaire, on va dire « la clé de la sagesse », c'est révérer l'Éternel, parce que c'est non seulement le commencement, mais c'est le fondement, c'est la clé. Sans révérer l'Éternel, la sagesse, elle n'est pas ce que les Écritures nous enseignent que est la sagesse. Okay. Les troisièmes, je vais aller plus rapidement sur le troisième référent et je vais le rattacher au quatrième. Le troisième référent, c'est s'attacher. Le troisième point d'ancrage pour développer une attitude habilitante et afin d'être un citoyen capable en toutes circonstances, c'est de s'imprégner des Écritures. Alors, tous les passages qui ont été lus nous amenaient là ce matin. On a vu le psalmiste qui venait pas aux Écritures par obligation, mais il aimait la parole. Vous lirez le psaume 119 au grand complet. C'est une prière de ce psalmiste-là qui aime la parole et qui demande à Dieu de l'aider à vivre selon la parole. Donc, le troisième pilier se rattache à ce qui a été dit dans la première partie. Ce qui m'amène au quatrième pilier et ce qui va me laisser le temps de conclure à la fin. Apprendre à connaître Christ. Et là, je vais vous lire... la traduction de la Bible du Sommaire. Que l'on soit sous l'Ancienne ou sous la Nouvelle Alliance, le principe de formation continue demeure toujours présent. C'est-à-dire que, au fond, un de mes objectifs ce matin, ce serait de nous convaincre de faire de cette attitude habilitante qui peut faire de nous un citoyen capable en tout temps, de faire de cela un projet de formation continue autonome. Heureusement que je suis un peu sourd, ça fait que j'entends moins. OK. Donc, et je trouve ça, quand je lis les proverbes, je vois une invitation à se former continuellement à la sagesse. Et lorsque je lis... 2 Pierre 1, c'était le passage que j'ai mémorisé il y a quelques semaines. Je l'ai transcrit ici dans la Bible du Sommaire. Ça dit, faites tous vos efforts pour ajouter... Et le point d'ancrage ici, c'est apprendre à connaître Christ. Ça, c'est la conclusion du passage que je vais lire. Et c'est mon point d'ancrage. Mais pour... Et j'étais étonné, je ne l'avais pas vu. Ça m'avait échappé. Alors, il dit, « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. » La vertu, lui, il appelle ça la force de caractère. Ça ne veut plus rien dire quand on parle en français puis qu'on dit vertu. La force de caractère, ouais. Ça prend de la force de caractère si on travaille chez Norbourg et qu'on reçoit des ordres qui sont frauduleux, mais pas tout à fait. C'est juste un exemple parmi des milliers. Ça prend de la force de caractère si on est dans n'importe quelle chaîne de réalisation d'un projet concret, puis qu'on veut nous amener à poser des gestes qui sont mauvais. Ça prend de la force de caractère, la vertu. Alors, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'attachement à Dieu, c'est quoi le mot? Piété. attachement à Dieu, ça me parle beaucoup. À l'attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ça m'avait échappé. C'est une démarche continuelle qui implique, je résume ça en disant, c'est un projet de formation continue. Les proverbes peuvent nous alimenter, mais le Nouveau Testament aussi peut nous alimenter. Par ailleurs, le reste de 2 Pierre, ça c'est dans 2 Pierre, et le reste de 2 Pierre, je résume ici dans une phrase, nous rappelle que ce ne sont pas des histoires habilement inventées. La Bible du Sommaire apprend ces mots-là. Ce n'est pas par des histoires habilement inventées qu'on vous a fait connaître Christ. Que Christ a été révélé, nous pouvons nous appuyer fermement sur les paroles de Pierre, des apôtres et des prophètes. Vous lirez un Pierre, la suite là, de 2 Pierre 1, ça nous dit on peut s'appuyer fermement sur les prophètes, sur les écrits des prophètes. Donc Pierre, il nous dit, moi je l'ai vu, ce dont je vous parle, je l'ai vu Jésus. Puis les prophètes nous en ont parlé d'avance. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est notre fondement, c'est pas des illusions. Ce n'est pas des histoires inventées. Puis l'autre message que j'avais préparé, je mettais plus l'accent là-dessus pour vous dire, mais tu sais, on a des outils, puis c'est des vrais outils. Mais là, je n'ai pas le temps de développer ça, mais vous le lirez, vous allez voir. « Étant né de nouveau en vertu de la parole vivante et permanente de Dieu, comme Yvan a lu ce matin, nous sommes invités à désirer la parole, comme le lait pour un nouveau-né. Cette parole qui veut et peut habiter en nous est celle des Écritures tout entières. En bref, c'est ma conclusion. Je nous invite tous à faire de cette attitude habilitante pour être un citoyen capable, pour vivre dans le monde en citoyen capable, d'en faire un projet de formation continue. Comme pour n'importe quelle autre formation que nous désirons acquérir ou recevoir, je dis acquérir parce que je prends une perspective que la formation, la responsabilité revient à celui qui veut l'avoir. Le prof en avant a beau parler, c'est nous qui faisons quelque chose avec. Puis quand il n'y a pas de prof pour parler, il y a quand même de la formation qu'on peut se donner et qu'on se donne tout le temps sans même nommer ça de cette façon-là, parce qu'on apprend tout le long de notre vie. Alors, comme pour n'importe quelle autre formation que nous désirons acquérir, rien ne se produira sans investissement soutenu de notre part. Si je veux apprendre à faire de la photo, si je veux apprendre à cuisiner, si je veux apprendre à réparer des autos, il n'y a rien qui se fait tout seul. Si je veux apprendre à vivre dans la sagesse de Dieu, ça aussi, ça ne se fait pas tout seul. Mais ici, nous avons un passage dans 2 Corinthiens 3, 17. Je vais le lire parce que je ne suis pas capable de le dire par cœur. Alors, ça donne bien, je vais vous le lire. Ah, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La connexion avec le verset, je ne la fais pas bien, mais mon point, de toute façon, c'est partout dans les Écritures, cette formation-là, on n'est pas capable de la faire seul et par nous-mêmes. En fait, ça peut devenir un piège que de vouloir s'améliorer dans nos applications de la Bible, puis perdre de vue qui on est. On est un pécheur sauvé, on est un pécheur repenti, comme un alcoolique qui ne boit plus, on est un pécheur repenti, on est un pécheur qui a Christ comme ressource pour revenir à lui à chaque fois qu'on retombe dans un péché, puis on a l'Esprit de Christ qui habite en nous. Jean 14, 15, 16, ça revient tout le temps, l'Esprit que Dieu, que Jésus va nous donner après. Et c'est avec cet Esprit-là comme accompagnant que l'on peut entreprendre ce projet de formation sur une base continue. Ça termine la conclusion de ce que j'ai dit, et avant de vous quitter, j'avais prévu de vous parler des trois prochaines discussions. Vous allez recevoir un feuillet de discussions. Les deux premières discussions sont rattachées à ce que vous avez entendu dans la première partie du programme. Désirez la parole. Vous avez l'exemple du psaume 119. Je vous invite à lire le psaume 119 et à le relire plusieurs fois. Si vous ne lisez que les 20 premiers versets, de toute façon, tout est là, 1 à 20. Mais si vous êtes capable de le lire au complet, je vous invite à le faire et les feuillets de discussion en groupe soulèvent des questions reliées auxquelles vous répondrez avec la lecture du psaume 1, du psaume 119 et du psaume 19, qui sont les trois psaumes où est exaltée la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et la dernière discussion pour la troisième semaine, c'est une discussion qui va reprendre le message de ce matin avec des questions. Les trois questions sont les suivantes. La Bible a-t-elle quelque chose de concret à nous dire quand tout va vraiment très mal? Il y a des versets pour vous partir dans cette discussion-là et vous pouvez en trouver d'autres qui sont meilleurs, je n'en doute pas. La Bible ne répondrait-elle pas à des questions comme « Sur quelle base fonder nos choix et nos actions? » Et « La Bible ne constituerait-elle pas une source de formation pour vivre dans le monde en citoyen capable? » Donc, ça termine mon exposé. Le but, c'était de vous encourager à utiliser, à venir aux Écritures et à faire de la recherche d'une attitude habilitante pour vivre comme un citoyen capable, en toutes circonstances, d'en faire un projet de formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait avant dans la première partie. Ça conduisait vraiment très bien à